Une part manquante, c'est un film réalisé par Guillaume Séné. Tous les jours, Jay parcourt Tokyo au volant de son taxi à la recherche de sa fille, Lily. Séparé depuis 9 ans, il n'a jamais pu obtenir sa garde. Alors qu'il a cessé d'espérer la revoir et qu'il s'apprête à rentrer en France, Lily entre dans son taxi. Un voyage au pays du soleil levant, loin des clichés où l'émotion gagne au fur et à mesure du récit. Le film était proposé en avant-première dans le cadre de la 25e édition du Arras Film Festival. Jean Denisot, l'un des scénaristes, et Mei Sirné-Mazuki, qui joue le rôle de Lily, sont venus présenter le film à cette occasion et échanger avec le public. Nous les avons rencontrés avec Cassandra, étudiante de l'Université d'Artois. On écoute la bande-annonce et on les retrouve juste après.
Comment t'es passé de chef cuistot à taxi?
C'est ma femme qui a enlevé ma fille.
Ici, c'est le premier qui prend l'enfant qui a la garde.
Elles sont parties, mais j'étais... Je pouvais pas accepter, tu vois, et... Depuis 9 ans,
je me suis mis à chercher Lily un peu tout le temps, tu vois. Le jour, la nuit, partout, dans tout le pays.
Konnichiwa.
Domo.
La stabilité de l'enfant, c'est qu'il voit ses deux parents.
Ouais,
c'est pas ça?
Pas ici. Papa, j'ai retrouvé Lily.
Jérôme, c'est la 10e fois que tu me l'as fait, celle-là.
Je sais.
C'est Lily, putain!
C'est Lily ne sait pas tout ce que tu as fait pour la retrouver. Je te suggère d'aller lentement.
Il t'a dit quoi?
Ce que j'aurais dû faire il y a 9 ans.
Tu vas pas pouvoir continuer à faire le taxi sans lui dire qu'il t'aime.
Elle t'a oublié. Steven ne connaît ni quoi.
J'ai peur de la perdre. Je peux pas divorcer, sinon je vois pas ma fille. Je veux pas.
Zutto nihon ni itan.
Moi, je connais le réalisateur depuis une grosse dizaine d'années parce que moi, je suis aussi réalisateur et on avait un projet de long métrage en même temps, qui était en écriture en même temps. On s'est rencontrés aux ateliers d'Angers, Jeanne Moreau, en 2011. Et on était amis. Puis quand on a fait nos films respectifs, lui, il a fait Keeper, son premier long métrage. Et moi, j'ai fait La Belle Vie, mon premier long métrage et jusqu'à présent unique long métrage. On a fait des festivals ensemble. On a notamment été à Austin, au Texas. Et on était devenus très amis. Et puis, on s'est dit qu'il fallait qu'on écrive un film ensemble. Et voilà. Et puis, on a discuté pendant plusieurs mois pour savoir quel sujet pourrait être bien. Et comme c'était lui qui avait plus de facilité à faire des films et que moi, j'avais plus de difficultés, on s'est dit qu'on allait écrire pour lui. Et puis, il m'a sorti du chapeau ce sujet-là, qui était un sujet sur les enlèvements d'enfants. Et il se trouvait que moi, mon premier long-métrage parlait déjà de ça, que c'était un sujet que j'avais déjà vraiment creusé. C'était logique, c'était bien. Et puis, ça nous permettait de faire ça au Japon, donc de découvrir une toute nouvelle culture, donc de réactiver finalement un sujet. De son côté, la paternité, et de mon côté, les liens familiaux conflictuels, mais de réactiver ça, mais au Japon.
Moi, c'est ma mère qui a trouvé une annonce sur un réseau social et elle m'a proposé de passer des auditions, donc j'ai dû en passer 3 ou 4. Et après, j'ai été choisie et j'ai dû faire une semaine ou 2 de tournage et voilà.
Et alors, comment ça s'est passé pour toi, ce premier film? C'est impressionnant quand on arrive là-dedans, peut-être. Faut apprendre ton texte, connaître un petit peu comment ça fonctionne, les caméras, tout ça, pour poser ton regard.
Au début, du coup, comme c'est le premier film dans lequel je suis, je savais pas du tout comment ça se passait. C'est vrai qu'au début, c'était super stressant, mais tout le monde était super gentil. En fait, j'avais entendu dire que Romain Duris, c'était un acteur connu et tout, mais moi, personnellement, je le connaissais pas du tout. Donc, au début, c'était un peu stressant de jouer avec quelqu'un de connu. Mais franchement, il était super sympa et ça s'est bien passé, je pense.
Pour revenir sur la thématique du Japon, comment est-ce que vous avez pu restituer la culture japonaise dans ce film-là? Est-ce que ça n'a pas été assez compliqué d'incorporer certaines scènes, certains éléments qui rappelaient justement cette culture sans trop non plus s'éloigner du sujet ?
Ben, c'était très difficile parce que moi je ne suis pas du tout japonais, contrairement à Mei qui est à moitié japonaise. Guillaume ne l'est pas du tout non plus, lui est plutôt belge, franco-belge. Et moi je n'y avais jamais été, tout simplement. Alors après, pendant l'écriture du film, nous y sommes allés tous les deux. On a beaucoup travaillé sur place à chercher les bons décors. Mais surtout, l'écriture, ce qu'on voulait, c'était pas faire quelque chose d'exotique. C'est quand même un personnage qui arrive au bout de son périple, au début du film, qui a décidé de quitter le Japon, quitter la ville de Tokyo. Et donc, il ne s'agissait pas de faire une visite touristique pour le spectateur. Et puis, de toute façon, ça intéresse pas du tout Guillaume. Lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment une histoire de paternité, une histoire de déchirement. Et une histoire de retrouvailles, donc quelque chose de très lumineux. Donc c'est vrai que pour ce qui est de la culture japonaise, moi je m'intéressais au Japon depuis longtemps parce que je suis judoka, donc ça fait des années que je fais du judo et j'en fais encore. Donc j'avais dans l'oreille la langue japonaise parce que tout ce qui est de l'ordre du judo, c'est du japonais. Mais je ne parle pas du tout japonais, évidemment, je ne connais pas le pays. Mais j'avais un tropisme, j'avais un goût pour ça. Et Guillaume ne connaissait pas du tout le Japon. Il y avait été une fois pour son deuxième film avec Romain Duris. Et c'était là qu'il s'était dit qu'il faudrait faire un film là-bas. Voilà. Mais bon, au début, c'est une opportunité, quoi. Et puis, bon, il y avait peut-être un goût de notre part. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne connaissait pas. Et il a fallu lire des choses, beaucoup se renseigner. On a fait un gros travail de documentation, pas seulement culturel, mais aussi sur le droit. Le droit du mariage, le droit du divorce, le droit des enfants, le droit des étrangers à résider sur le sol. Plein de choses qu'il fallait... Enfin, on savait qu'il fallait pas dire des bêtises, quoi. On essayait de pas en dire trop.
Quelque chose qui est intéressant aussi dans l'écriture, c'est... moi, en tant que spectatrice, je me posais plein de questions. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les personnages répondaient à mes questions pendant le film. C'était voulu, ça ?
Ben c'est sûr qu'en fait, quand on écrit un film comme ça, qui est un film avec un sujet très fort, ça suscite des questions. Parce que les spectateurs, notamment occidentaux, ne connaissent pas le Japon, ne connaissent pas l'Extrême-Orient, ne connaissent pas le droit de la famille, connaissent plein de choses, enfin, même les droits coutumiers, par exemple. Et donc, ça suscite des questions. Et nous, l'art du scénariste, ça consiste à susciter des questions, puis à trouver les moyens les plus subtils d'y répondre. Donc évidemment, on essaye de passer le moins de choses par le dialogue, mais parfois on ne peut pas en faire l'économie. Des fois, il y a des choses qu'on est obligé de passer par le dialogue. Mais évidemment, ça fait partie du travail de scénariste. On suscite des questions lorsqu'on ouvre un film, lorsqu'on a comme ça une scène qui vient commencer un film. En l'occurrence, le film commence par l'arrivée, le surgissement de Jessica, qui est un peu le double de Jay, le double du personnage masculin. C'est ça l'incident déclencheur. Et donc, du coup, on se pose plein de questions. Comment ça se fait qu'une femme, comme ça, elle est obligée de supplier pour voir son enfant ? Et donc, ça enclenche la machine à questions.
Justement, pourquoi avoir choisi une fin qui est très ouverte ? Et puis même dans l'histoire des personnages, on plonge un peu dans leur histoire. C'est vraiment... Il n'y a pas un début ni une fin. C'est vraiment un moment de vie.
Elle est ouverte, cette fin, May. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette fin ?
Je trouve que c'est pas très ouvert. Enfin, si, mais quand je lisais le scénario pour la première fois, c'était pas du tout la fin à laquelle je m'attendais. Enfin, je pensais que ce serait soit une fin triste, soit une fin heureuse, mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est super... Enfin, après, on peut penser comme on veut, mais...
Non, mais tu as raison. Tu as raison, c'est une fin qui est mitigée. C'est une fin, il y a une dimension ironique dans cette fin, il y a une dimension complexe. C'est-à-dire qu'il a retrouvé sa fille, et ça, on peut pas lui retirer. Et puis, il y a ce lien. Il y a ce lien entre les deux, c'est un lien qui est tout à fait contemporain, c'est ce lien numérique, c'est, voilà, ils sont, grâce à leur téléphone, reliés. Mais c'est grâce à leur téléphone. Même s'il y a des milliers de kilomètres entre eux, ils sont reliés. Ils ont vécu quelque chose ensemble, ça c'est très important. Néanmoins, c'était tout à fait logique qu'ils soient expulsés. Et ça, ce qu'on cherche à faire quand on écrit un film, toujours, c'est avoir une structure, avoir une histoire qui est à la fois parfaitement logique et en même temps surprenante. Que le spectateur se dise, mais oui, évidemment, c'est sûr que ça allait se passer comme ça, mais je ne savais pas que ça allait se passer exactement comme ça. Mais on s'y attendait, mais d'une manière surprenante. Et ça, c'est tout le travail du scénario. Hein. C'est mon travail que j'ai accompli avec Guillaume Sénez. Mais voilà, ce qu'on voulait, c'était une fin qui ne soit pas complètement dramatique, parce que le spectateur aurait été trop triste. Mais en même temps, on ne voulait pas non plus une fin complètement angélique, parce que le spectateur se serait dit « mais c'est idiot, c'est complètement con comme fin ». Donc il faut trouver le juste dosage, et c'est cette dimension un peu ironique, un peu complexe, un peu à la fois triste et en même temps gay, qu'on a cherché, je crois qu'on a obtenu.
Nous, en tant que Français, en connaissant le droit français et justement les droits relatifs justement au divorce, aux gardes, on se dit que c'est quand même hallucinant que le premier parent qui se sauve avec l'enfant obtient la garde complète, même si les deux parents sont encore mariés, même si, voilà, en plus on apprend qu'il continue de payer la pension alimentaire, qu'il n'est pas divorcé au bout de 9 ans, qu'on lui conseille et qu'à un moment il hésite d'aller prendre l'avion et de partir avec sa fille. On se demande comment ça peut finir.
Mais oui, mais le Japon et la France sont deux pays extrêmement différents. C'est, déjà, je pense qu'il faut commencer par ça. Ce n'est pas le même droit, ce n'est pas les mêmes droits coutumiers, ce n'est pas du tout les mêmes cultures. Le Japon a un rapport à la famille qui n'est pas du tout le même que le nôtre. Disons qu'on va dire qu'en France, enfin en Occident, en Europe, on avait exactement le même rapport à la famille il y a encore un siècle et demi. C'est-à-dire qu'une famille qui se sépare, c'était un peu une catastrophe. C'est une catastrophe patrimoniale. Et puis, c'est extrêmement difficile pour les femmes. Pour les femmes, c'est un échec. Un divorce, c'est un échec. Et ça, je ne peux pas porter de jugement là-dessus. C'est vrai, c'est un échec là-bas. Alors qu'en France, bon, on sait qu'il y a un mariage sur deux qui se solde par un divorce. Et pour nous, on estime que c'est plus trop un échec et que c'est la vie. Et que voilà, on se rencontre, on s'aime, puis après on ne s'aime plus. Et puis les enfants, ils suivent. Les Japonais, ils ont une autre manière de voir les choses. Les Japonais, ils pensent que les enfants, ils doivent être absolument protégés de tout ça et que passer d'une maison à une autre en garde alternée, c'est compliqué par l'enfant. Et en plus, on le sait que c'est vrai. C'est compliqué pour les enfants. Et donc, ils évitent ça, ils évitent les divorces. C'est très compliqué de divorcer. C'est, voilà, parce qu'ils estiment que c'est les enfants qui trinquent. Et c'est vrai. Et moi, qui ai fait des recherches là-dessus, je suis obligé de dire que au Japon, ils ont raison. Mais néanmoins, la manière dont ça se passe, la manière dont l'État se désintéresse de cette question familiale et où l'État n'intervient pas quand ça se passe mal, c'est aussi problématique. Mais voilà, c'est très complexe, c'est une histoire de culture. Et nous, avec Guillaume Sénez, on a essayé de ne pas porter de jugement tranché sur ces choses-là parce qu'on est des Occidentaux, on est deux hommes blancs français, européens. On ne va pas avoir un regard critique sur une société qui n'est pas la nôtre. On essaye d'avoir un regard nuancé.
Aussi, dans le film, j'ai remarqué qu'il y avait des problématiques qui étaient un peu incluses. Je pense notamment à la double identité que le personnage de Lily a dans le film, qui sont mentionnées sans forcément être développées. Pourquoi ce choix-là ?
Ben, c'était pas le cœur du sujet, la double identité. Mais par contre, ce qui nous importait, c'était que le personnage qui est incarné par May, qui pourra d'ailleurs en dire un mot d'ailleurs parce que ça la concerne au premier chef, soit un personnage qui ne soit pas qu'une idée. C'est-à-dire que véritablement, c'est un personnage qui certes déjà dans le film a perdu son père, mais qui est un peu différente dans son pays. Elle se sent un peu étrangère dans son pays. Et nous, ça nous intéressait parce que ça donnait une complexité au personnage. Voilà, mais je pense que c'est une question qu'il faut plutôt poser à May parce que ça la concerne. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que d'être...
Cette question de la double identité culturelle qui est mentionnée dans le film mais aussi qui te concerne dans la vraie vie. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Par exemple, moi aussi, je suis à moitié asiatique et c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois en France, par exemple.
Bah, c'est vrai que comme je suis franco-japonaise, à chaque fois quand je suis en France, bah, je suis souvent japonaise. Enfin, on me prend plus pour une japonaise que pour une française. Et au Japon, on me prend plus pour une française qu'une japonaise. Donc vous savez que des fois, ça peut être un peu embêtant. C'est pas très pratique et c'est pas très sympa non plus. Mais franchement, moi, ça me dérange pas trop. Je trouve que... Enfin, j'aime bien être japonaise, j'aime bien être française. Donc c'est quelque chose que j'aime bien.
L'inclusion de trois langues dans le film, qui sont parfois traduits, mais juste en sous-titres, c'est un choix qui peut être parfois compliqué pour les spectateurs parce qu'il faut suivre et la langue et le sous-titre. Pourquoi avoir décidé de garder ces trois langues à la fois, donc l'anglais, le japonais et le français?
Il y a assez peu d'anglais, hein, mais c'est un film franco-belge. Je crois qu'avec une petite majorité de Belges sur la production, et c'est un film français, et c'est aussi un film japonais, parce qu'il y a des coproducteurs japonais, mais qui sont minoritaires. Donc pour avoir accès à certains financements, il fallait, notamment le CNC qu'on a eu, il fallait que le film soit à plus de 50% en français. Or, c'est très compliqué de faire un film en français quand il se passe au Japon. Enfin, les gens, ils parlent pas français au Japon. Donc, il fallait... C'est pour ça qu'il y a le personnage de Jessica, notamment. C'est pour ça que l'avocate parle français. Elle a son histoire. Il a fallu trouver des truchements purement scénaristiques pour arriver à 50% de langage français. 51%. Et puis après, c'était naturel que les gens parlent japonais. Mais après, dans ces groupes de parole, il s'est trouvé que souvent, il y a d'autres gens et qu'on se mette à parler anglais. Parce que quand il y a des Coréens, quand il y a des... Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent d'Océanie, comme les Australiens, par exemple. Ben, dans des groupes de parole, souvent, on parle anglais. Voilà. Mais c'est une toute petite partie, l'anglais.
Ça fait écho aussi à la communication à l'intérieur du film. Justement, lui, il est au Japon depuis un certain temps. Il parle japonais. Peut-être qu'il parle pas extrêmement bien japonais. Donc, parfois, passer par l'anglais, ça peut peut-être aider aussi. Voilà, donc je pense qu'il y avait aussi une histoire de communication en plus de celle du père et de la fille.
Oui, mais c'est sûr que c'est un film qui parle aussi de ça, de la difficulté de communiquer. Ce qui a intéressé Guillaume au début, c'était de faire d'un personnage occidental, donc souvent représenté comme un personnage riche, qui soit comme ça un immigré dans un pays encore plus riche. C'est-à-dire que quand on est occidental, qu'on arrive au Japon, on se sent pauvre. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez ironique, d'assez étonnant. Et puis aussi, c'est évident que ce film, c'est un film sur un problème de communication, sur comment on arrive à s'entendre. Non, mais ouais. Oui, c'est un film aussi là-dessus. Et oui, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'était que Romain Duris, il a appris le japonais et il a beaucoup travaillé. Et il est arrivé à un japonais qui était assez bon, peut-être un peu trop bon. Et au moment du tournage, on lui a demandé de faire des fautes dans son japonais pour que ça soit l'histoire d'un Français qui vit au Japon depuis des années mais qui n'a pas pris des cours, qui a appris le japonais sur le tas. Et donc, du coup, ce qui était intéressant, c'est que Romain, il est arrivé au tournage, il connaissait bien le japonais, on lui a demandé de désapprendre pour à nouveau faire des fautes de langage.
C'était un entretien avec Jean Denisot, l'un des scénaristes du film Une part manquante, et Mei Sirné-Mazuki, qui joue le rôle de Lily. Une part manquante était proposée en avant-première dans le cadre de la 25e édition du Arras Film Festival. Nous les avons rencontrés avec Cassandra, étudiante de l'Université d'Artois. Propos illustrés par la bande-annonce du film.